verrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre aujourd'hui notre série de historiques sur l'architecture du XXe siècle, intitulée « Une brève histoire de l'architecture du XXe siècle ». Encore une fois, il est évident que je ne peux pas être exhaustif sur une période aussi importante et foisonnante que nous avons vécu le siècle passé. Donc, le résumé des chapitres précédents, nous avions vu, après la transition de l'architecte américain Wright, le germano-américain Mies van der Rohe, qui est une figure, on peut dire, classique et qui raccorde à la fois la modernité la plus, je ne sais pas si on peut dire radicale, en tout cas la plus impressionnante, et avec l'architecture classique. C'est quelqu'un qui est dans la perfection de l'architecture, et en cela, il se rattache au passé de l'architecte dans les détails, de l'architecte complet, et aussi de l'artisanat et de la perfection des matériaux. Le second, qui le suit de très près, est un Suisse français, Le Corbusier, qui est évidemment bien connu en France. Et la figure est différente, parce que là, on est sur un inventeur. Alors, j'ai rapproché les biographies des différents protagonistes de cette architecture du XXe siècle et leurs origines. Alors évidemment, on est loin de la reproduction de Bourdieu qui dit qu'il ne fallait qu'un milieu culturel ne pouvait produire que des milieux culturels et que sans cette transmission, on ne pouvait pas exister. Là, il s'agit en fait d'un fils d'ouvrier qui n'a pas fait d'études, qui a été apprenti pour le premier. Et pour le second également, on se trouve quelqu'un qui a fait des études d'art, mais qui sont assez éloignées de l'architecture. Et aussi d'une ascendance familiale qui est plus artisanale, avec l'industrie typique traditionnelle de la Suisse, des montres et des décorations de montres. Alors là, d'ailleurs, c'est intéressant de voir le cheminement du second, qui est, comme je vous disais, dans l'invention. Et on est dans une opposition entre la perfection de style, et que l'on va retrouver dans tous les domaines de l'art, de la musique, comme on va le trouver en peinture, on peut dire toute une vie qui est vers un idéal de perfectionnement, et aussi à l'opposé, ce que l'on va retrouver par exemple chez Picasso pour le XXe siècle, un artiste qui est dans l'invention et qui n'a pas une continuité de style, mais malgré cela, on ne peut pas dire qu'on est dans un éclectisme comme certains architectes d'aujourd'hui, ou on peut dire même la plupart des architectes d'aujourd'hui, mais ça, on parlera de cela en postface de l'émission. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du troisième donc héros qui s'appelle Louis Kahn. Alors Louis Kahn, c'est un Américain, mais c'est un Américain immigré comme beaucoup, qui est né en Estonie. Donc c'est un Slave, et comme je vous avais parlé de l'influence des religions, même si ces personnalités ne sont pas a priori religieuses ou croyantes, mais l'influence du milieu de l'imprégnation culturelle, et c'est quelque chose, comme je vous avais dit en début, qui m'est apparu il y a assez peu comme un déterminant très important. Donc le premier, donc c'est un catholique qui est élevé par son père à la proximité d'une cathédrale gothique, et le second, c'est un protestant avec aussi toute la relation de l'esprit communautaire et aussi d'entraide et d'humanité aussi, du protestantisme que l'on va retrouver à travers son œuvre. Donc, pour le troisième, il s'agit, comme je vous disais, c'est un Slave, mais c'est un Slave qui est d'origine de religion israélite, juive, et je ne sais pas vraiment quel était son rapport à la religion, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir l'influence que peut avoir, d'une manière probablement inconsciente plus que consciente, cette religion sur les œuvres et sur la production. Donc Louis Kahn est né, donc comme je vous disais, en Estonie en 1901, ce qui fait par rapport à nos deux prédécesseurs qui le rapprochent plus de nous, et donc il meurt en 1974. Alors, à la différence, là je vais vous parler de des choses qui sont plus personnelles, la différence des deux autres, effectivement, c'est que j'ai eu l'honneur et le plaisir de le rencontrer et d'avoir de longues discussions avec lui quand j'étais étudiant aux États-Unis, et je vous parlerai de ça au cours de l'émission. Donc, je vous parlais des formations, et des formations qui étaient des deux premiers protagonistes, Miss et Corbu. Et là, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus classique, et un architecte qui est étudiant en architecture en Pennsylvanie. Il est issu d'une famille très modeste, mais il est inscrit à l'université de Pennsylvanie, et il a comme professeur, et ce n'est pas rien, un architecte français qui s'appelle Paul Cray. Et là aussi, c'est un fait qui est peu connu des Français, de l'influence de l'École des Beaux-Arts aux États-Unis. Alors, les États-Unis, qui sont, comme vous le savez, un pays d'immigration, mais qui cherche aussi depuis toujours, et aujourd'hui c'est pareil, d'attirer les talents du monde entier dans tous les domaines, que ce soit de la science, de la technique et de l'art. Et dans le cas de l'architecture, l'École des Beaux-Arts, qui en France a eu un déclin continu jusqu'à sa chute en 68, bien au contraire, aux États-Unis, on avait pris les meilleurs éléments et qui ont apporté on peut dire, un esprit français de rationalité qui a perduré dans les écoles. Et là, l'influence de l'École des Beaux-Arts, avec justement toute cette démarche de la fin du 19e siècle, de la rationalisation de l'architecture, a été un élément très formateur pour des générations d'architectes, et en particulier de Louis Kahn. Alors, Louis Kahn avait un rapport en plus, je crois, de proximité avec Paul Cray, et cela doit être aussi le fait que j'avais eu une relation assez sympathique et d'échange, et ce devait faire partie de ce souvenir des Français. Donc je pense que les Français, on avait pour Louis Kahn une aura, même si elle était méritée, mais en tout cas qui était liée à cette histoire dont je vous parlais. Alors, Comme je vous disais, il a eu donc un parcours académique classique, et puis, comme beaucoup d'architectes, il a travaillé chez des architectes, et il a été très rapidement assistant, puis enseignant à l'université de Pennsylvanie, qui était donc la même université dans laquelle il avait été formé. Ce qui est assez surprenant par rapport aux deux prédécesseurs qui ont commencé à construire très tôt, ils avaient 23 ans, 24 ans, et Louis Kahn est tout à fait différent parce que il développe, on peut dire, de la théorie, de l'enseignement, et il a une aura assez forte déjà aux États-Unis par ses qualités d'enseignant, mais tout en ayant très peu construit. En tout cas, il avait construit à travers des agences, mais rien de signifiant, si ce n'est qu'il avait appris son métier, ce qui n'est pas rien. Et donc, ses premiers projets, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il a la cinquantaine, 52 ans, quand il construit ses premiers projets, donc des projets qui est sur le campus de l'Université de Pennsylvanie, qui est un projet de laboratoire, laboratoire Richards. Et puis, en suivant, il construit un musée à l'Université de Yale, qui est toujours sur la côte Est, pas très loin. Et ensuite, il construira, d'ailleurs, de l'autre côté de la rue, un deuxième musée sur le campus de New Haven de l'université de Yale. Donc, ce premier projet de laboratoire le fera connaître dans, on peut dire, dans le milieu de l'architecture, parce que il va à l'encontre de ce que l'on faisait pour les bureaux et pour les laboratoires. En fait, en gros, les bâtiments, ils avaient ce qu'on appelle un core en anglais, mais qui est le cœur central dans lequel il y a les circulations et aussi tous les fluides et les tuyaux et qui est au centre du bâtiment. Et puis, on a tout autour du bâtiment les bureaux, les espaces de vie et de travail qui sont près des façades. Et là, il va rompre avec cette habitude et il va faire une série de tours, et des tours qui vont être les lieux où il va y avoir les conduits et les transmissions verticales, aussi les ascenseurs, etc. Et les plateaux seront raccrochés, et donc on aura un effet, on peut dire, de château fort quelque part, puisque on a ces tours qui apparaissent et qui sont hors du plan. Alors l'avantage, c'est que dans le cas on peut dire classique, ancien, du conformisme des bureaux ou des laboratoires, quand il y a des extensions possibles techniques, bah, il est évident que ça ne peut pas rentrer puisque on est au centre, que déjà tout est rempli. Et donc, la possibilité justement d'avoir, de rejeter sur l'extérieur les circulations verticales de techniques permet justement des transformations et un accès plus facile pour les évolutions de bâtiments. Et on sait que au cours des décennies, les bâtiments, et notamment des bâtiments de recherche de laboratoire, évoluent. Donc, il était en rupture, il a été l'objet de critiques, mais au final, ces bâtiments ont été reconnus comme innovants. Alors, comme je vous disais, ça ressemble à un château, et c'est tout à fait étonnant, et ce qui fait la singularité de Louis Kahn, c'est que à la fois c'est quelqu'un qui a une projection dans le futur sur les technologies et sur l'utilisation justement du développement technologique et de sa, on peut dire, sa flexibilité, qui est liée vraiment au cœur de notre époque, et à la fois il y a une forme, et comme je vous disais, qui va être celle d'un château fort avec des tours, et cette ambivalence va créer à la fois son originalité et son succès aussi parce que il va ramener une image beaucoup plus, on peut dire, antique, traditionnelle, tout en la liant à cette Amérique de l'évolution et du progrès. Et c'est pour cela qu'il est un architecte singulier, parce qu'il raccorde à la fois le vieux monde de l'Europe, et avec aussi le futur et de l'Amérique des États-Unis. Donc, ça va créer sa singularité, mais aussi un malentendu. Alors, je vais développer cela dans la deuxième partie. On va marquer une pause musicale. Thank you. Alors, je vous parlais des châteaux forts comme image, et il y a un dessin qu'avait fait Le Corbusier lors du voyage en Europe qui fait partie de la tradition des étudiants américains, voyage en Europe dans lequel on allait voir les bâtiments du passé, mais aussi les bâtiments modernes. Et je sais que, par exemple, il avait pour Le Corbusier une grande admiration. D'ailleurs, il avait la même admiration pour Mies van der Rohe, et j'en suis un témoin direct pour justement l'avoir vu parler de cela. Et alors, pour ramener à notre région Occitanie, vous voyez, il est toujours important de ramener même cette histoire de l'architecture internationale à la région Occitanie. Louis Kahn avait été impressionné par la cathédrale d'Albi, avec justement la manière dont les contreforts sont protégés. Et qui permettent à la fois la lumière de rentrée, c'est-à-dire ce gothique méridional. Alors évidemment, à l'époque, je pense que les Jacobins n'étaient pas visitables, mais on a cet exemple à la fois des Jacobins et à la fois de la cathédrale d'Albi, où on a un mariage à la fois de la modernité, entre guillemets, du gothique, qui permet à la lumière de rentrer avec ce mariage, avec aussi la romanité et la solidité de bâtiments qui arrivent à défier le temps sans avoir la fragilité des édifices gothiques et aussi sans avoir, on peut dire, le mystère et l'ombre des édifices romans et qui étaient percés de peu d'ouvertures. Donc, je pense que cette dualité, même s'il ne l'expliquait pas comme tel, puisqu'il avait un discours assez poétique avec ses étudiants sur l'ombre et la lumière, sur la lumière. Mais je pense que c'est le fond de son expérience, c'est ce mariage dont nous avons un exemple historique, ou deux exemples historiques en tout cas, qui sont Albi et les Jacobins, d'un équilibre entre la modernité et aussi la permanence, et des bâtiments qui sont parvenus jusqu'à nous sans un grand dommage. Et je pense que c'est la leçon que Louis Kahn essaie de donner, c'est-à-dire de faire à la fois des bâtiments qui sont de leur temps, et à la fois qui peuvent durer comme les bâtiments anciens ont duré. Alors, si je fais une petite parenthèse par rapport à l'architecture d'aujourd'hui, et notamment l'architecture durable dont on parle, bah surtout elle a comme caractéristique de ne pas l'être. Et on fait des bâtiments qui, notamment avec l'isolation par l'extérieur, etc., des bâtiments dont on peut dire que la dégradation programmée est très prochaine. Bon, ça c'est ma petite note impertinente, la petite parenthèse que je fais. Donc, revenons à Louis Kahn. Il y a donc un deuxième projet qui est très important. Vous pouvez le trouver sur Internet parce que c'est particulièrement documenté. C'est les laboratoires Salk. Alors là, c'est à l'opposé, c'est sur la côte ouest, c'est San Diego, c'est au bord de l'océan Pacifique. Et on peut dire qu'il s'agit d'une commande qui est liée à son premier bâtiment de laboratoire. Alors, Salk, je vous le rappelle, est l'inventeur du vaccin de la poliomyélite. Et donc, bon, d'ailleurs, il est aussi juif, ce qui doit créer aussi un lien, en tout cas une vision universaliste et humaine, puisque on sait que Salk avait refusé de faire breveter et de prendre les droits sur son vaccin, et qu'il l'avait laissé libre de droit, et donc pour que il soit diffusé mondialement le moins cher possible. Donc c'était, on peut dire, un philanthrope, mais Il a continué ses recherches dans ce laboratoire. Donc, il avait été frappé par certainement ce caractère à la fois, on peut dire, antique des laboratoires de Richards de l'université de Pennsylvanie. Donc, il demande sur un terrain magnifique qui est en bord du Pacifique, à Cannes, de refaire un centre de recherche. Alors là, le modèle, ce n'est pas les tours d'un château, mais ça sera un couvent plutôt, c'est-à-dire un monastère, avec des laboratoires qui vont donner sur un espace central qui est une cour, une sorte d'ailleurs de cour qui donne une vue sur le Pacifique. Et c'est un bâtiment absolument extraordinaire. Et évidemment, c'est pas à côté, autant je vous avais dit, vous pouvez aller à Barcelone voir le pavillon de l'Allemagne à Barcelone de Miss, et là évidemment c'est un peu plus loin pour y aller, mais à mon sens ça fait partie de si vous avez l'occasion d'aller sur la côte ouest, d'un bâtiment absolument extraordinaire à voir. Je pense que c'est un des plus beaux bâtiments que je connaisse. Et d'ailleurs, pour Cannes, puisque la question lui avait été posée par un autre de mes collègues étudiants, quel était le bâtiment que vous préférez, et Louis Cannes avait répondu ce que souvent les artistes répondent, c'est le bâtiment que je suis en train d'étudier. Je pense qu'à l'époque, il était en train d'étudier le centre de l'Assemblée du Bangladesh. Et puis, il a marqué un temps d'arrêt, et je pense que ça devait être sincère. Il a dit, mais en fait, non, il y a le bâtiment que je préfère. Il y en a un autre qui n'est pas celui que j'étudie, mais un bâtiment qui est le laboratoire Salk. Et il a ajouté quelque chose qui est tout à fait touchant, et qui est, je pense, le propre de tous les artistes. Quand on a quelque chose qui réussit, il a dit, quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait. Ce qui était à la fois modeste et immodeste, suivant la manière dont on regardera la chose. Donc, Louis Cannes était quelqu'un de extrêmement chaleureux. Il avait un contact absolument extraordinaire, et j'ai eu l'occasion, donc, comme je vous disais, de parler avec lui, de manger avec lui également, dans une soirée. Et il était curieux, attentif, retenant le prénom des gens, de la vie des gens. C'était et il était on peut dire un pédagogue rayonnant, et assez différent des caractères de Miss, qui était quelqu'un qui parlait très peu et qui était on peut dire impressionné tout le monde par ses silences. Et aussi de Le Corbusier, qui était quelqu'un qui à la fois était humain dans ses réalisations, mais assez dur dans ses rapports, ou du moins assez complexe dans ses rapports avec les gens avec qui il travaillait, et aussi une personnalité attachante, mais assez complexe. Donc on est à l'opposé avec Louis Cannes, qui est de la vie de tout le monde, quelqu'un d'une gentillesse extrême, d'une générosité totale. Et je pense que cette générosité se transcrit dans ces bâtiments. Alors, pour amener au début du propos sur les religions, il ne suffit pas de dire c'était humain, etc. Il y a une caractéristique qui m'est apparue par une critique qui avait été faite par son ingénieur. Son ingénieur s'appelait Commandante. Et il a écrit un livre sur Louis Cannes, qui est assez rosse d'ailleurs, où il fait partie à la fois, il est admiratif de Louis Cannes, mais il fait part de ses désaccords et ce qui arrive effectivement entre dans la collaboration et l'élaboration d'une œuvre. Et il avait fait une remarque que les bâtiments de Cannes, l'entrée était très peu visible, et que il cachait l'entrée quelque part. Alors, c'est quelque chose qui m'avait surpris, parce qu'effectivement, dans les œuvres de Mies, par exemple, qui sont souvent symétriques, l'entrée est visible, il y a un grand escalier, donc on est toujours comme la cathédrale qui est au centre de la cité, et donc le porche d'entrée est le repérable marque totalement les éléments de perception de l'édifice. Et effectivement, les bâtiments de Cannes, et notamment une bibliothèque qui est à Exeter, qui est une ville universitaire pas très loin de Boston. Et il y a ce bâtiment de bibliothèque avec un atrium central, bon, que j'ai une idée que Cannes n'a pas inventée, mais qui est traitée d'une manière magnifique, avec justement la lumière et encore, comme je vous disais, la façade épaisse en briques et aussi la lumière qui rentre, et ce mariage entre la technologie et aussi le classicisme et l'histoire. Et là, effectivement, ces bâtiments dont la lumière, dont l'entrée n'est pas visible, bah, en fait, c'est celle des synagogues, et pour des raisons historiques, pour les raisons des pogroms, pour des raisons à l'opposé effectivement de la religion catholique qui, elle, marque son territoire et le signifie à la fois par l'entrée et aussi par la flèche qui doit marquer de loin l'église et le clocher. Et là, on a des bâtiments qui sont beaucoup plus dans la discrétion et aussi avec une entrée qui n'est pas effectivement visible. Alors ça, c'est effectivement quelque chose que l'on peut et que l'on peut relier à l'imprégnation de la religion. Donc, comme je vous l'ai rappelé, donc il s'agissait le premier le catholique avec justement la lumière et la qualité de la logique et de l'entrée et de sa position du bâtiment dans l'espace public. Le deuxième, c'est Le Corbusier et à la fois son invention, mais à la fois aussi son côté communautaire qu'il va créer dans les unités d'habitation et dans tout son urbanisme qui est très communautaire et dans lequel on va trouver la présence protestante et aussi égalitariste et à l'opposé justement de la hiérarchie et de la visibilité. Donc il y a un rapport qui est d'un ordonnancement différent. Et le troisième, l'archaïsme de la religion juive, qui est de toutes les religions du livre la plus ancienne, et qui va être marqué aussi par la discrétion de sa position dans l'espace public. Donc on voit l'influence de la religion. Donc le quatrième architecte qui sera dans mon exposé Venturi, alors là je vous réserve ça pour la prochaine émission sur ce sujet. Voilà, donc je conclurai avec cela pour la série de ces trois émissions, et le prochain sera donc Robert Venturi. C'était Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Je remercie Léo qui est à la technique et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Thank you.